allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Nous sommes à table avec Marcel Boucher. Vous écoutez Stravinsky et c'est l'adoration de la terre.
Oh, très bien.
Marcel Boucher, vous avez suivi la voie ouverte par Charles Darwin, puisque le dernier livre de Charles Darwin était consacré aux vers de terre. Vous avez accompagné les vers de terre dans les sous-sols de la terre. Et votre dernier livre s'appelle « Des vers de terre et des hommes » et c'est chez Actes Sud. Alors vous êtes un géodriologue qui a commencé donc comme un jardinier, qui s'est formé de façon autodidacte et puis qui a fait des études supérieures pour devenir chercheur et directeur de recherche.
Je suis un jardinier qui a mal tourné, mais enfin j'ai quand même retenu de cette époque l'usage de la bêche qui s'avérait très utile pour étudier mes vers de terre. Et puis après, bon, en autodidacte, j'ai pris des cours et puis j'ai été un petit peu à la fac des sciences pour avoir des formations plus formelles et je suis revenu à l'INRA dont j'avais tête de laboratoire pour peu à peu devenir directeur de recherche.
Alors pourquoi parle-t-on de vers de terre dans une émission de gastronomie qui s'appelle « On ne parle pas la bouche pleine » ?
Ah, ça, c'est la bonne question. Bon, pour deux raisons. C'est parce que ces vers de terre sont la première source de viande animale qui est disponible dans nos milieux. Et donc, c'est une alimentation. Je vais y revenir.
Donc, il y a à peu près 7000 espèces de vers de terre dans le monde et à peu près 400 en France, hein, c'est ça ?
Ouais, quelque chose comme cela, oui. On est loin d'avoir tout découvert.
Mais en France, par exemple, on ne mange pas énormément de vers de terre. Enfin, nous, humains.
On n'en mange plus. Sauf peut-être quand on mange de la bécasse. Voilà.
J'aime ça.
Oui, oh, c'est excellent. Et on mange notamment des petits canapés de bécasse qui sont faits avec les intestins de bécasse, lesquels ne sont que des digestats de vers de terre. Les bécasses ne mangent pratiquement que des vers de terre. Donc, vous voyez, l'homme moderne, le gastronome, apprécie encore, sans le savoir, parce qu'il serait dégoûté, hein, le vers de terre. Mais en fait, on a plus que de bonnes raisons. On a les quasi-certitudes que tous nos ancêtres, donc les vôtres, se sont alimentés de vers de terre. Et pourquoi ? Parce que les populations actuelles qui sont à civilisation chasse-cueillette, que ça soit dans le Kalahari, en Amazonie ou en Australie par exemple ou chez les Papous, se nourrissent de vers de terre encore abondamment quand les femmes font la cueillette. On appelle ça la cueillette quand les hommes font la chasse des aliments nobles. Donc tous nos ancêtres se nourrissaient de vers de terre. Voilà.
Il y a longtemps de cela, les vers de terre habitaient les coquillages que l'on trouve sur les rivages et les hommes les ont appelés alomi.
Ça, je ne savais pas.
C'est chez les Inuits. Et je vous propose d'écouter, justement, un petit chant inuit à la gloire du vers de terre.
Alomé, alomé, nagling nakpe, nagling nakpe, sinano singin nawapken. Imano singin nawapkin, alumir nagsiutikin, temuok siutik na paktaklutik na pangmangnik. Singa sinanon ngor imano singit kong iluni imat
Vous avez parfaitement compris, j'imagine,
évidemment.
Boucher. Donc, cette jeune femme nous chante donc « Alomi, Alomi, que vous êtes misérable, que vous êtes misérable. Des rivages, nous allons vous rejeter dans l'océan. Où sont vos oreilles, Alomi ?» Donc, elle appelle le ver de terre. Le ver de terre, du coup, entend. Mais non, les vers de terre ne veulent pas retourner à la mer. Ils veulent établir leur demeure sur la terre ferme.
Alors, les vers de terre, bon, ça va surprendre quelque peu. En France et en moyenne, il s'agit d'une moyenne. Il y a des valeurs qui peuvent être trois fois supérieures. Il y a une tonne de chair de vers de terre, j'insiste sur ça, à l'hectare. Alors, pour donner une petite idée, il y a 60 kilos d'insectes. Il y a 50 kilos d'hommes. Il y a 1 kilo d'oiseaux. Voilà. Donc ça donne un ordre de grandeur. En fait, il représente, c'est très difficile à dire avec certitude, mais entre 60 et 80% de toute la masse animale. Et quelle masse animale au point de vue gastronomique? Car, bon, on a l'habitude d'exprimer en masse sèche. Hein, c'est-à-dire, on commence par sécher le ver de terre avant de faire les dosages et les mesures. Mais 70% de leur masse, ce sont des protéines. Et pas n'importe lesquelles de protéines. Des protéines avec des acides aminés qu'on appelle essentiels. Qu'on ne trouve pas, par exemple, dans la viande de bœuf. Hein, mais qu'on trouve dans le poisson. De même, il y a 15% d'acides gras. Alors, ah, oui, les acides gras. Mais la moitié sont des acides gras insaturés, dont les fameux oméga 3 qui sont la mode. Autrement dit, les vers de terre sont un véritable régime crétois en termes de sources alimentaires. Bon. Et alors, ça n'a échappé à personne, je dirais, pas seulement aux hommes anciens, je dirais, chasse-cueillette, mais surtout les oiseaux qui ont l'œil, et il y en a qui sont spécialisés. Alors là, j'ai des collègues, Philippe Grandval et Régine Aliaga, qui ont fait la compilation de ce qu'on sait dans la littérature. Seulement pour les oiseaux, les mammifères. Et alors, ils ont répertorié 186 oiseaux qui apportent tout simplement des vers à leurs oisillons. C'est souvent au nid que ça se voit. Ils ont répertorié 12 mammifères. Alors, il y en a un qui est très célèbre, bien que ça ne se voit pas beaucoup. C'est la taupe. Si la taupe est dans les prairies et partout, c'est parce qu'elle ouvre des galeries dans lesquelles les vers de terre ont la stupidité de tomber, et tous les matins, la taupe se promène et ramasse sa manne dans la galerie. C'est
Notre ami le cochon aussi.
Ben, notre ami le cochon. Alors, dans les mammifères, oui, notre ami le cochon est un fou de vers de terre. Le sanglier mange à la valeur de 2 beefsteaks par jour de vers de terre, donc de cette excellente protéine. Et acide gras.
Et chez les humains, quels sont les peuples qui mangent encore des vers de terre? Les aborigènes et...
Tous les gens qui sont à l'association chasse-cueillette. Alors ça va en se réduisant. Hein. Effectivement, les aborigènes, peut-être encore certains papous, bien que les papous sont passés à un stade de culture, mais également il y a encore des Amérindiens hein, dans l'Amazonie, et peut-être encore dans le Kalahari, les Bushman. Voilà. Disons que dans la littérature, il y a 50 ans, ils le faisaient encore toujours. Voilà. Pour être allé dans la vallée de l'Omo, où j'ai pu voir des peuples qui étaient juste au stade suivant, qui font plus que de la chasse, mais n'ont pas tellement de chasse-cueillette, je ne les ai pas vus manger de vers de terre. Donc, voilà.
Et vous en mangez régulièrement?
Ah non, jamais. Non.
Vous avez goûté quand
non,
même?
Non, j'ai même pas eu la curiosité. Non, je les mange par les yeux, moi je te dis beaucoup, c'est une autre façon de faire.
Alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser comme ça aux vers de terre? C'est Darwin justement, c'est le dernier livre de Darwin?
Non. Très franchement, en tant que jardinier, recruté comme aide de laboratoire parce que j'étais premier en botanique, on m'a mis en zoologie, qu'à ce moment-là, comme maître de laboratoire, c'est-à-dire simple manipulateur, on m'a chargé à l'époque d'étudier les animaux du sol. Il fallait des appareils pour les extraire, donc c'était mon rôle. Mais il n'y avait pas les vers de terre, on étudiait des micro-arthropodes et des choses comme ça. Donc, et puis j'ai dû aller faire la guerre d'Algérie, j'ai dû faire ensuite quelques études à l'université, et quand je suis revenu à l'INRA, bon, pour différentes raisons, ils m'ont recruté en priorité.
Rappelons ce qu'est l'INRA.
L'Institut National de la Recherche Agronomique, qui est peut-être le plus grand centre d'Europe de recherche agronomique.
Et à l'INRA, on s'intéresse aux vers de terre ?
Non, pas du tout, justement. Mais alors, pas du tout. Et c'est parce qu'on ne savait pas trop quel sujet me donner. C'est le genre de sujet qui n'intéresse personne à l'INRA. Pourquoi ? Parce que à l'époque, les vers de terre ont deux défauts majeurs. Ils ne vont pas dans notre assiette, ce n'est pas un produit agricole. Bon. Et ils ne font pas de dégâts. Ce n'est pas des animaux qui font des ravages dans les cultures.
Beaucoup de gens confondent vers et vers.
Oui.
Et le vers des terres n'est pas un vers comme un autre.
Ah oui. Oui. Les vers qui mangent les racines des plantes sont souvent des vers blancs ou des vers gris. Bon. Qui sont en fait des larves d'insectes. Ça n'a rien à voir. Bon. De même, on a les vers qui creusent dans le bois. Les vrillettes, ce sont encore des larves d'insectes. Il y a énormément de vers, à commencer par le ténia qu'on a dans notre intestin, qui n'ont rien à voir avec les vers de terre. Ce sont des lignées animales aussi différentes que de confondre les hommes, par exemple, je ne sais pas moi, avec un ténia. Voilà, il y a autant de différences. Ça n'a aucun rapport.
Est-ce que vous saviez, Marcel Boucher, que Fernandel s'intéressait aux vers de terre ?
Ah non, décidément. Quelle recherche radiophonique.
Je vais vous faire écouter un texte de Lucien Dumas, lu par Fernandel.
Et les vers de terre, ils vivent cachés. Peut-être sont-ils heureux. À peine la motte de terre est-elle retournée par la bêche du jardinier qu'ils surgissent de leur galerie invisible. Oh, il y en a de toutes les tailles. Les uns ont le teint fleuri de ceux qui mangent trop de viande rouge, les autres l'ont de ce jaune particulier à ceux qui souffrent du foie. Ils s'allongent et se raccourcissent. Ils se tordent, se tendent et se détendent. Contorsion par-ci, contorsion par-là, ils vont finir par se faire des nœuds. C'est un parfait numéro d'acrobatie qu'ils exécutent sous mes yeux. Comme si j'étais un impresario de cirque en quête d'artistes à engager.
Alors Marcel Boucher,
c'est... Ah, là je suis stupéfait, mais c'est sympathique comme tout. À part le foie là, et puis le régime alimentaire, tout le reste est exact en plus. C'est très très sympathique. Voilà. Je reviens à mes aliments.
Ah bah oui, vous revenez à vos aliments.
Alors bon, j'ai parlé de l'importance donc pour les oiseaux, également les reptiles, les amphibiens, puis tous les pêcheurs à la ligne savent très bien,
bien sûr,
que on accroche un ver de terre au bout de l'hameçon et que ça mord. Bon, et c'est pas le hasard. En réalité, les poissons dans les rivières s'alimentent de, ça paraît curieux parce qu'il n'y a pas de ver de terre, mais en réalité, dès qu'il y a une pluie ou n'importe quoi, vous avez des vers de terre qui courent à la surface et qui tombent dans les rivières. Et c'est une alimentation très importante.
Sauf quand il n'y a plus de vers de terre dans la terre.
Ah ben oui, là ça c'est... Mais plus de vers de terre dans la terre, il y a deux causes. Il n'y en a jamais eu, parce que les sols sont extrêmement pauvres et qu'il n'y a que très peu de vers de terre dans les milieux pauvres, dans les écosystèmes pauvres, pour employer un mot un peu savant. Bon, alors ça existe, mais ça existe très peu. Ou alors très froid, comme en Laponie précisément. Bon, ou encore au Sahara. Mais en général, il y en a beaucoup. Quand j'ai dit 1,2 tonnes tout à l'heure à l'hectare, c'est un chiffre moyen en France. Mais malheureusement, dans les zones de culture intensive, toutes les agrotechniques qui ont été mises en œuvre n'ont jamais été évaluées en regardant ce qui se passe dans le sol. Le sol n'existe pas. On s'intéresse uniquement au rendement à court terme. On fait un essai, on compare, le rendement est meilleur, allons-y. Voilà, en gros, c'est aussi simple que ça. Alors que cela détruise le sol, etc., comme un sol, ça ne se détruit pas en 5 minutes, ça prend 20, 30 ans. Un sol, c'est une mémoire, hein, de l'activité pas seulement des vers de terre, des racines, de la vie également, en général, la production des plantes. Plus les plantes produisent, plus elles fertilisent le sol, plus les vers de terre nourrissent les plantes.
Et s'en nourrissent.
Ben voilà. Et donc, plus le milieu est riche, plus c'est riche.
Alors, quand le jeune ingénieur à l'INRA va voir les agriculteurs et qu'il leur dit « Regardez votre sol », ce que font aujourd'hui les bourguignons aussi quand ils vont voir les viticulteurs en leur, en leur montrant « Regardez la terre, regardez à quoi elle ressemble », qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il se passe actuellement, et il n'y a pas que Bourguignon, je connais deux, trois ingénieurs agronomes qui, dans des chambres d'agriculture, ont pris le parti de prendre une bêche, d'aller ouvrir le sol et d'attirer l'attention sur les agriculteurs. Bon, ben, il se passe que ces gens-là comprennent. Et je dirais que même avant, moi je me rappelle que quand je capturais des vers de terre en France pour connaître les espèces françaises, car on ne les connaissait pas, j'ai eu des gens qui me sont tombés dessus en me disant « Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi, là, ramasser dans ma prairie des vers de terre ?» Et quand je leur disais que c'était pour étudier les vers de terre, j'ai eu beaucoup d'agriculteurs qui spontanément m'ont dit « Mais c'est que c'est utile, vous avez raison, etc. » J'avais leur encouragement. Alors j'ai quelques cas plus folkloriques où ça n'a pas été le cas. Ils m'ont dit « Ah bon, bah alors payez-moi » Non, on a de tout dans la nature. J'ai trouvé des choses amusantes dans cette période de ma carrière de chasse aux vers de terre. Et donc, les agriculteurs sont en général conscients. Mais ils sont conscients comme un peu les écolos, quoi. Ils sont conscients que c'est important. Tout le monde dit les vers de terre, c'est important. Point. Ça s'arrête là. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs ont à disposition des outils qui leur sont présentés comme positifs pour leur rendement, etc., qui, eux, n'ont pas été évalués vis-à-vis du sol qui les font vivre. Bon. Et résultat, même des agriculteurs bien intentionnés fichent en l'air leur sol actuellement. Hein, parce que on leur vend des tracteurs, ah, le plus beau tracteur d'une belle couleur avec des belles grosses, des beaux gros pneus, ou encore on leur donne, ils ont une maladie, qu'est-ce que vous voulez, dans un champ, qui est en train d'annihiler leur culture, on leur dit, mettez telle poule de perlimpinpin. Et ils le font, puis ils sont très contents de l'effet. Bon, ils se rendent pas compte que cette poudre empoisonne ce qui se passe dans le sol. Mieux que ça, quand vous faites pousser du bleu, vous aimez bien avoir un terrain, on appelle ça propre, quand on est jardinier. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Alors allons-y, les herbicides. Bon, les herbicides ne tuent pas les vers de terre, mais ils les affament. Un terrain agricole est formé de plantes qui ont des géométries différentes. Des fois, il y a même des arbres ou des arbustes quand on fait de l'agroforesterie. Et ça veut dire que l'énergie solaire est captée par des capteurs qui se complètent. Hein, vous avez des feuilles horizontales, des feuilles verticales, des feuilles comme ça. Et la capture de l'énergie qui va permettre au terrain de tourner et de vivre est complètement coupée. Il n'y a plus qu'un capteur, quoi, la plante qu'on a voulu cultiver. Et attendez, le capteur, mieux que ça, on le met en panne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, par exemple, la moisson, eh ben, le terrain est nu, hein, pendant des mois. Hein, on va finir par faire un semis,
alors qu'il faut le couvrir, qu'il faut le protéger.
Pendant ce temps-là, le capteur solaire est en panne, alors qu'il faut évidemment le couvrir.
Qu'est-ce qu'ils disent vos petits vers de terre pendant ce temps-là, Marcel Boucher?
Eh ben, ils disparaissent, hein, dans ces cas-là. Parce que, non seulement ils n'ont pas l'énergie nutritionnelle, mais mieux que ça, j'ai découvert sur le tard. Hein, vous savez, moi, il y a des choses que j'ai découvertes toujours par hasard et sur le tard. Mais en plus, ils sont comme nous. Ils ont besoin d'une diversité nutritionnelle. Et quand vous ne leur laissez qu'une plante comme source de nourriture, eh bien, ils maigrissent. Même quand c'est une plante riche, j'ai fait des expériences avec, par exemple, en ne leur donnant que de la luzerne. La luzerne, c'est riche en azote, c'est vraiment une plante formidable. Oui, eh ben, ils finissaient par perdre leur poids au bout d'un an, un an et demi, hein, il est vrai. Hein. Et le seul moment où ils ne perdaient pas leur poids, c'est quand j'aurais donné une alimentation diverse. Avec, tout simplement, la richesse d'un tapis herbacé naturel.
5 légumes par jour, c'est cela.
Quelque chose comme ça, sans oublier les fruits.
«
un chant a peut-être plus de vie, assurément plus de vie, ça j'en suis sûr, et plus de masse active dans le sol. Et que ce qu'on voit au-dessus, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et encore, on ne veut voir qu'une partie de la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, pour les gens qui s'intéressent à la culture des prairies, c'est seulement ce qui passe sur la barre de coupe. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a énormément d'herbes qui restent dans le champ.
Racontez-nous justement, sur un plan échelle, si on fait une coupe du sol, si on fait une coupe de la terre, oui. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'il faudrait que l'on voit ?
Ah, il y a deux choses.
Marcel
Quand
Boucher.
On fait une coupe du sol, il y a des tas de gens qui l'ont fait, ça s'appelle même des pédologues, des gens qui étudient donc les sciences du sol. Et là, ça remonte à... cette science a été créée du temps des tsars, vous voyez, c'est très vieux. Donc, on a une bonne connaissance. Alors, il y a des niveaux de sol plus ou moins organisés. Il est vrai que quand il y a eu un coup de tracteur, il n'y a plus rien d'organisé, mais dans un sol naturel, il y a des couches. Et disons que, là, je vais simplifier à l'extrême, dans un sol...
Vous voulez dire que le coup de tracteur, le ver de terre, n'aime pas ça?
Ah ben d'abord, il n'aime pas ça, ça le coupe, et puis surtout, ça désorganise le sol. Le sol est une organisation. Justement, quand on fait une coupe, on la voit, cette organisation. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en surface, il y a un incroyable mélange de petits grumeaux de sol. On appelle ça la structure grumeleuse. Disons, dans une prairie permanente, en gros, 6 cm de sol. Bon. Ça, en fait, ce sont des accumulations de crottes de vers de terre qui se sont stabilisées grâce aux micro-organismes et qui sont envahis de racines qui viennent puiser dedans leurs éléments nutritifs pour la plante. Donc, un bon cyclage. Mais ça, c'est superficiel, 6 cm. Puis en dessous, vous avez un sol apparemment massif. En l'été, il est farci de galeries de vers de terre. Alors ça, on les a mesurés. Alors, par hectare, il y a 4000 km de galeries. Ça dit pas grand-chose, dit comme ça. Mais si on fait la surface développée, pour un mètre carré ou pour un hectare, c'est que 5 fois plus. C'est-à-dire vous avez 5 hectares de contact air-sol dans ces galeries. Bon. Et alors, j'ai fait, là c'est plus en coupant, parce que quand on coupe, malheureusement, on détruit quand même le sol quand on observe. Donc on peut l'observer, mais un coup. Après, il est mis à l'air. Alors il y a une autre technique que j'ai faite, et ça je crois que c'est mon originalité, j'ai inventé des techniques qui permettent depuis la surface, de voir ce qui se passe dans le sol. Et comment ? Eh bien, j'ai inventé des vers de terre que j'ai transformés comme des sondes. Aujourd'hui, on fabrique des sondes spatiales qui permettent de découvrir dans l'espace. Mais dans le sol, on n'a toujours rien voulu découvrir. Eh bien, moi, j'ai inventé des vers de terre que je colore pour pouvoir les reconnaître, parce que je les mets dans une population naturelle dont ils ont été extraits. Hein. Ils viennent de chez eux. Je repère même la galerie. Donc
oui, ce sont des vers de terre naturels, pas artificiels.
Oui, surtout un milieu non perturbé. Ah, sinon, ça marche pas. Et puis, j'ai remis chez eux. Mais simplement, ils ont une petite carte de visite, là, leur petite couleur, non, pas très naturelle. Et puis alors, je les ai, par exemple, chargé d'azote, on appelle ça 15, c'est un isotope de l'azote, hein, que l'on sait grâce à des appareils très très sophistiqués, dosés.
Oui, parce que l'azote, c'est la matière vivante par essence.
On peut pas faire une protéine sans avoir beaucoup d'azote. C'est 10% de la constitution des vers de terre. C'est très important. On prend donc un azote bizarre, disons, appelons ça l'azote 15, mais lui, ce qu'on appelle un marqueur. Bon, on fabrique un ver de terre comme ça, donc il est doublement bizarre, je sais le reconnaître, il est avec son marqueur, je le relâche dans le sol, et à ma stupeur, hein, parce que là, il faut savoir que tout ça était totalement inconnu, voilà que mes vers de terre, en quelques heures, commencent à abandonner par excrétion leur azote, ils en prennent, remarquez, dans la nature, mais c'est l'autre azote. Hein. Donc ils substituent. Hein. Et alors, ils donnent ce fameux azote marqué, en quelques heures, et puis ça continue, j'ai pu observer jusqu'à 40 jours, et ça passe un tout petit peu dans le sol, à peine, et tout de suite dans les racines des plantes. Et puis ça passe ensuite dans la partie aérienne des plantes. Et ceci à une vitesse phénoménale. Tous les jours, ils sont en train de libérer, alors c'est très loin d'un apport d'engrais, ça, hein, puisque c'est une dose homéopathique, comme on dit, mais oui. Qui donnait tous les jours le ver de terre. Passe, les galeries, les fameuses galeries dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont truffées de racines, hein, et les plantes s'alimentent Voilà. Et la quantité, alors là encore, c'est, ça relève de l'incroyable, c'est 500 kilos par hectare et par an qu'on a pu voir passer comme ça des vers de terre aux plantes. Alors, c'est bien supérieur aux apports des engrais.
Et l'homme qui croit toujours être supérieur à la nature croit apporter des médications qui, en fin de compte...
Oui, mais enfin, bon, l'homme, il a fait sa place à sa façon, je vous dis, avec son aveuglement, c'est-à-dire l'incapacité de comprendre le sol, il a surimposé des techniques, le labour que les vers de terre font très bien, ils l'ont remplacé par des charrues, qui consomment énormément d'énergie, pour être fabriquées, et comme carburant, bon, là, les vers de terre n'utilisent que l'énergie solaire des plantes. Bon, c'est totalement différent. Mais ils font quelque chose comme 1000 tonnes.
Si le sol est couvert.
Comment ?
Si le sol est couvert, s'ils ne sont pas brûlés par le soleil sur un terrain,
mais
sur
non,
un
mais
champ.
Mais ils remontent la nuit. Non. Mais le sol est naturellement couvert. Il y a toujours des petites feuilles, des brindilles, un sol normal est couvert. Bon, les sols découverts, il faut vraiment passer à coups de pesticides, de tracteurs. Enfin, c'est seulement dans l'agriculture intensive où, à ce moment-là, quand ils sont découverts, même le sol part. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, la couche superficielle fabriquée avec des petits grumeaux, ces petits grumeaux, en plus, sont capables d'absorber les eaux de pluie, les galeries de vers de terre également, une quantité énorme de pluie peut passer dans les galeries de vers de terre. Par exemple, on a observé qu'en plein orage méditerranéen, eh bien, il n'y a pas d'écoulement de surface. Bon, alors je pourrais donner des chiffres. Tout ça, j'ai mesuré.
Et sur un plan alimentation, du point de vue gastronomique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que la fertilité, donc notre alimentation, l'homme ne fait jamais que se servir sur un sol fertile. Si vous cassez la fertilité, on est obligé artificiellement de la recréer. En apportant des phosphates, en fabriquant avec de l'énergie, qui peut être nucléaire ou pétrolière, par exemple des engrais azotés, tout le monde se rappelle de l'accident terrible, parce que c'est un explosif qu'on fabrique, qui s'est produit à Toulouse avec la fabrication d'azote. Donc, voilà ce qui se fait. L'homme dépense de l'énergie, dépense beaucoup de choses, tout ça pour remplacer ce qui spontanément fonctionne très largement. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du tout d'engrais, mais alors quand on est aujourd'hui inquiété par l'augmentation de la population, par le fait qu'on aille vers des grandes difficultés alimentaires, notamment les engrais. Prenons le cas des phosphates. On est en train d'épuiser les dernières mines de phosphates. Qu'est-ce qu'on va faire après ?
Ne
devrions-nous pas avoir l'intelligence ? C'est très important le mot intelligence. C'est-à-dire connaître ce qui se passe dans le sol pour tout simplement faire ce que les vers de terre recyclent. Et comment se fait-on que nous ignorions pratiquement la première masse animale de France, et de très loin, alors que nous avons des tas de chercheurs ? Comment fait-on ? Ça prouve que nous avons actuellement un grave problème de démarche scientifique. Et c'est pas politique, contrairement à ce qu'on croit. C'est scientifique. C'est la science qui est en panne.
Merci. Merci, Marcel Boucher.
Attention, vous. Hein. 3, 4.
Et j'espère que je n'ai pas parlé la bouche pleine.
Plié, tendu, la jambe
et... C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, préparée par Romain de Becdelièvre. La prise de son est d'Élise Leu, le mixage de Cédric Châtelu et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 nuits sur le site de France Culture. Vous pouvez la podcaster pendant un an et écouter dans quelques instants le journal. Hey, 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 hey.